Vous écoutez
RMC.
Merci d'avoir choisi RMC. Très bon réveil à tous. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Après un calme de courte durée, les tirs dans le détroit d'Ormuz, l'armée américaine a ouvert le feu contre un cargo iranien. Un navire français a quant à lui été endommagé par Téhéran. Présent ou pas, Elon Musk, invité à s'expliquer aujourd'hui par la justice française, les dessous de sa plateforme X dans le viseur des enquêteurs. Et en foot, Paris chute à domicile et laisse Lens se rapprocher dans la course au titre de Ligue 1.
Le détroit d'Ormuz sur le point de s'embraser.
Carrefour du pétrole mondial à nouveau fermé à double tour. Le blocus iranien a repris ce week-end. Blocus américain toujours en cours. Et les États-Unis ont décidé de montrer les muscles, quitte à risquer l'escalade à deux jours de la fin du cessez-le-feu. Leur armée a attaqué et pris le contrôle d'un navire iranien hier, Marion Degas.
Oui, le porte-conteneur iranien Tuska, parti de Malaisie il y a environ une semaine, a tenté de franchir le blocus américain, écrit Donald Trump. Selon lui, l'équipage a été averti mais a refusé d'obéir. La marine américaine a alors tiré à plusieurs reprises sur la salle des machines du cargo avant de prendre son contrôle. La veille, ce sont plusieurs navires commerciaux qui avaient été visés cette fois-ci par des tirs iraniens. Ils tentaient de franchir le détroit d'Ormuz alors que Téhéran venait d'annoncer sa réouverture avant de faire marche arrière. Parmi eux, un navire français de CMA-CGM, propriétaire de RMC, visé par des tirs de semonce. Le transporteur maritime précise que l'équipage est sain et sauf. Selon nos informations, le navire a fait demi-tour. L'Organisation maritime internationale a précisé de son côté que le navire avait été endommagé.
Et conséquences diplomatiques, d'abord Téhéran qui a promis de riposter à la prise de ce navire et qui exclut toute négociation de paix alors qu'une délégation américaine doit arriver au Pakistan ce soir pour une nouvelle session de discussion. Et puis conséquences économiques également, les cours du baril de pétrole sont repartis à la hausse ces dernières heures au moment où les distributeurs de carburant ont une nouvelle fois rendez-vous chez nous avec le gouvernement aujourd'hui. Cette flambée des prix des carburants, elle profite au marché des véhicules électriques. Vous nous le dites souvent au 32-16, le problème, c'est le tarif de ces voitures déjà, mais surtout, comment recharger facilement. L'une des solutions, c'est d'installer une borne dans sa copropriété. RMC a enquêté, les demandes explosent chez un des leaders du secteur. Elles ont doublé en un mois et Clara Gabillet, les professionnels sont sur le pont pour faire face à la demande.
Les cartons s'empilent sur les palettes, les bornes vérifiées une par une.
Là, c'est un câble de recharge qui va partir chez un de nos clients. On est bon pour absorber tout le surplus de demandes.
Car les devis s'enchaînent depuis deux semaines. Zakaria supervise toute la logistique chez Watt.
Il va falloir qu'on prépare plus vite, il va falloir qu'on expédie plus vite.
Tout s'est accéléré début avril, assure Jacques-Alexis Bon, directeur général adjoint de cet opérateur de bornes de recharge.
Il y a beaucoup plus d'appels, on fait beaucoup plus de devis aussi. Là où on avait souvent des reports de décisions qui étaient faits, là, les gens, maintenant, ils prennent des décisions.
Décision boostée par la hausse des prix du carburant et la hausse de la prime de l'État pour installer des bornes qui vient de passer à 12 500 euros par immeuble. Les demandes ont donc doublé en moins d'un mois chez The Plug, son directeur général Nicolas Blanchet.
On avait à peu près 500 demandes par semaine. Aujourd'hui, c'est 1000 demandes par semaine. Vous avez d'un côté la réflexion sur le prix du carburant qui pèse de plus en plus sur le portefeuille. De l'autre côté, un message positif pour inciter à l'équipement. Donc, rouler en électrique est encore plus avantageux.
Car grâce à une recharge lente, la nuit chez soi, 100 km d'autonomie en voiture ne reviennent qu'à 3 euros selon EDF.
Clara Gabillet pour RMC. Notez aussi que le corps de Florian Montorio a bien été rapatrié hier. Ce soldat français tué dans une embuscade ce week-end alors qu'il était déployé parmi les casques bleus de l'ONU au Liban. Il est 7h04 sur RMC. Les militants LR ont choisi Bruno Retailleau. Ils ont voté à 74% pour écarter l'hypothèse d'une primaire et donc propulser le président du parti comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Ça, c'est sur le papier, Romain Cluzel, car ça ne calme pas les velléités de ses adversaires en interne.
Exactement, parce que ce vote n'écrase pas le match pour les opposants internes à Bruno Retailleau. Tout le monde s'en fout, lâche un cadre du parti, qui note que le nombre de votants a chuté entre l'élection de Bruno Retailleau comme président de LR l'an dernier et sa désignation comme candidat à la présidentielle hier. Bruno Retailleau le sait, il doit toujours faire face aux ambitions de membres de sa famille politique comme Xavier Bertrand ou David Lisnard, mais aussi d'autres prétendants du centre droit comme Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Alors pour espérer monter dans les intentions de vote, il compte compte enchaîner les annonces sur son projet thématique par thématique, avec des déplacements partout en France, avant un meeting prévu au mois de juin. Un proche de Laurent Wauquiez-Rail, Bruno Retailleau va devoir mettre le super turbo. Les sondages le créditent à ce stade de 7 à 10% d'intention de vote.
Romain Cluzel du service politique de RMC. Un père de famille est entre la vie et la mort à Toulouse, touché samedi soir par le tir d'une gendarme. Elle et son équipe avaient été appelés pour des violences conjugales. L'homme a commencé à frapper les agents malgré des coups de taser. Elon Musk, convoqué par la justice française aujourd'hui, le milliardaire américain sera-t-il présent en personne à cette audition libre? Rien n'est moins sûr. En tout cas, les enquêteurs veulent l'entendre en tant que patron de la plateforme X, un réseau social pas officiellement poursuivi mais soupçonné de nombreuses infractions. Alfred Orange.
C'est l'algorithme de X, soupçonné d'être biaisé, qui a attiré en premier l'attention de la justice, redoutant un terreau favorable aux ingérences étrangères. Mais c'est l'intelligence artificielle du réseau social baptisé Grok qui concentre désormais les investigations, accusé aussi bien de créer des photomontages sexuels non consentis que de relayer des propos négationnistes. La procureure de Paris liste au total 7 infractions pénales. C'est dans ce contexte qu'Elon Musk et une dizaine de cadres de l'entreprise américaine sont invités à comparaître pour y donner leur version des faits. Le réseau social dénonce, je cite, un acte judiciaire abusif. Réponse du parquet de Paris, l'absence de ses cadres dirigeants à cette convocation n'est pas un obstacle à la poursuite des investigations.
Les explications d'Alfred Orange pour RMC.
7h07, le football et cette Ligue 1 passionnante jusqu'au bout.
A commencer par la course au titre. Faux pas du Paris Saint-Germain hier soir, battu par Lyon de 2-1. Les Parisiens sont désormais à portée du deuxième lançoir, Turpero.
Oui, avec cette 5e défaite de la saison, Paris ne compte plus qu'un point d'avance sur son dauphin Lens, mais avec un match en retard. L'entraîneur parisien, Luis Enrique.
Vous aimez un championnat plus disputé, c'est un championnat disputé. Et Lens, il continue à gagner des matchs et ce sera difficile jusqu'à le dernier match.
Pas le temps de souffler pour Paris qui va disputer 9 matchs en 27 jours, dont une demi-finale de Coupe d'Europe face au Bayern Munich. Alors le PSG va-t-il prioriser une compétition?
Non. La priorité, ce sont les deux compétitions qu'on peut gagner. C'est la priorité.
Avec cette cadence infernale, le défenseur Lucas Beraldo se sait très attendu.
Cette dernière mois va être très difficile pour nous. C'est 9 matchs qui c'est très important. Tous les matchs de la Ligue des Champions et de la Ligue 1 aussi. Et on est là toujours pour gagner chaque match.
Paris devra montrer un tout autre visage et se relancer dès mercredi au Parc des Princes face à Nantes, l'avant-dernier au classement, avant un choc au parfum de finale du championnat contre Lens, le 13 mai prochain.
Et côté Olympique Lyonnais, cette victoire permet à l'OL de monter sur la 3e marche du podium. Et puis un mot de basket, premier match de playoff NBA, première victoire pour Victor Wembanyama cette nuit avec San Antonio contre Portland. Wemby, on l'a appris hier aussi dans les 3 finalistes pour le trophée de meilleur joueur de la saison.
C'était le journal de Victor Pourchet, il est 7h08 sur RMC. Au 32-16, je voudrais qu'on accueille Laurent qui nous appelle de Gironde. Bonjour Laurent.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Laurent? Vous êtes prof de maths à Saint-Vivien de Médoc. Et vous vouliez revenir sur cet engrenage en quelque sorte, c'est-à-dire la hausse des prix du carburant, mécaniquement hausse des prix du transport, et donc on commence à évoquer le fait que si ça dure, eh bien c'est les prix dans les rayons qui vont augmenter. Hein.
Oui, c'est prof de sciences de l'ingénieur, mais en fait c'est pareil.
D'accord.
Mais de toute façon, ça a déjà augmenté. Moi j'ai vu que ma courgette, elle prenait le détroit d'Hormuz. Hein. Elle est passée avant le conflit de 1,49€, 1,80€ à 2,50€.
Oui, donc clairement, vous ne le saviez pas, mais en fait, c'est une courgette iranienne.
Oui, c'est ça.
C'est ça, ce que vous êtes en train de nous dire.
Voilà.
Et après, non, mais effectivement, tout augmente et sans forcément de justification.
Ah bah si, la justification, c'est avant tout passer par l'Ukraine, même ma courgette, et maintenant ma courgette est devenue iranienne.
Ouais c'est ça. Vous avez le sentiment que c'est quand même... Elle a bon dos?
Ah oui, clairement. Tout à bon dos là, et puis il faudrait une réponse collective. Là, votre intervenant, il voulait la TICPE en moins que pour les transporteurs. Non, à un moment donné, il faut que l'État, il arrête de se gaver. L'État, c'est taxe. Donc l'État, il faut qu'il fasse économie et rendre du pouvoir d'achat aux Français.
Alors, économie, hein, c'est aussi ça la question. Parce que en effet, le problème...
Mais moi, je trancherai là-dedans, mais comment je vous ferai des économies?
Où
le fameux sujet de toutes les agences, le Conseil économique, social et environnemental, enfin tous ces trucs où on classe, où on passe le commissaire au plan, là on met tous nos copains. Alors c'est une petite somme à chaque fois, mais multiplié par le nombre qu'ils sont, je suis sûr qu'on va sortir quelques milliards, sans souci.
Merci beaucoup.
Sans compter les députés.
Merci Laurent, on en reparlera justement avec Emmanuel Le Chypre tout à l'heure à 8h10, mais aussi cette question, c'est vrai que quand on regarde nos voisins, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, qui aujourd'hui font des gestes sur la question des taxes, oui, mais sauf que ils ont fait le ménage dans les comptes et qu'ils ont un budget, des comptes, un déficit moindre que le nôtre, et c'est toute la question. Merci en tout cas pour votre témoignage, n'hésitez pas, vous faites le 32-16 pour témoigner et réagir avec nous. Il est 7h10. Sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il s'appelait Florian Montorio, sergent-chef de l'armée française engagé au Liban pour la mission de l'ONU. Il a été tué ce week-end, vraisemblablement par le Hezbollah dans le sud du pays. Bonjour Dominique Trinquant.
Bonjour Apolline.
Général, vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. La mort de ce soldat français ne doit pas pour autant remettre en cause l'engagement français sur place. Voilà votre parti pris. On y revient dans un instant. 7h11.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La dépouille du soldat français a été rapatriée hier en France. Florian Montorio a été pris dans une embuscade dans le sud du Liban samedi matin dans le cadre de sa mission de l'ONU. 3 autres soldats français ont été blessés, dont 2 grièvement. Bonjour Général Dominique Trinquant.
Bonjour Apolline.
Merci d'être dans ce studio avec nous. Votre parti pris, c'est que l'engagement français au Liban doit persister. On va y revenir évidemment dans un instant, mais d'abord une question sur ce qu'il s'est joué ces toutes dernières heures, cette nuit. Un bateau français touché par des tirs iraniens. C'est un bateau d'ailleurs CMA-CGM, propriétaire d'RMC et BFM TV. De l'autre côté, un bateau iranien arraisonné par les États-Unis. Est-ce qu'on est à un tournant dans le détroit d'Ormuz ? Est-ce que vous vous dites que ça peut vraiment s'embraser ?
Oui, ça peut vraiment s'embraser. Il faut rappeler que l'ultimatum du président Trump se termine demain soir. Et donc, il y a eu une réunion importante dimanche à Washington dans laquelle il a dû prendre des décisions sur des options. Et les Iraniens, actuellement, semblent ne pas vouloir négocier. Donc, s'il n'y a pas de négociation, le cessez-le-feu arrive à son terme. Et à ce moment-là, d'autres options doivent être mises en œuvre par les Américains en particulier.
D'ici demain minuit, en effet, fin de l'ultimatum ou du cessez-le-feu. Quand vous dites d'autres options, qu'est-ce qui reste sur la table ? La reprise des hostilités ?
La reprise des hostilités, si les Iraniens ne veulent pas revenir à la table des négociations, bien sûr.
Dans ces cas-là, évidemment, ce serait reparti effectivement pour ces frappes. Mais encore une fois, cette nuit, il y a eu donc ces tirs vis-à-vis d'un bateau, en effet, occidental français. Un bateau britannique également aurait été touché. Et puis, un bateau iranien qui donc a été sous contrôle au moment où on se parle des Américains. Ce français sergent, le sergent Florian Montorio, qui a donc été tué samedi au Liban. La France doit maintenir son engagement au Liban, général.
La France est présente au sein de la FINUL depuis 1978. Ce mandat se termine le 31 janvier de cette année, parce que les Américains refusent de payer plus longtemps cette opération, et par ailleurs parce que depuis la résolution 1701 en 2006, normalement le Hezbollah aurait dû être désarmé. Ça fait 20 ans. Et le gouvernement libanais n'a pas fait grand-chose pendant ces 20 ans. Depuis à peu près un an, il a enfin décidé de vouloir désarmer le Hezbollah. La FINUL est là pour aider l'armée libanaise. Il ne s'agit pas de laisser tomber l'armée libanaise au moment où elle a besoin de nous et au moment où le Liban, globalement, a besoin de la France.
Est-ce que vous pouvez nous redire quel est le rôle, la mission de la FINUL ?
La FINUL est là-bas pour aider l'armée libanaise a désarmé le Hezbollah et pour accompagner la population. J'ai moi-même commandé un bataillon dans cette région-là, un bataillon français, et je peux vous dire que les Français sont accueillis partout à bras ouverts. La France est notre mère, disent les Libanais, ce qui nous fait un peu mal au cœur parfois parce qu'on se rend compte de la faiblesse de nos moyens. Mais ceci étant, sans la FINUL, l'armée libanaise aurait encore moins de moyens, et en particulier le sergent Montonio qui a été tué, est du 17e régiment de génie parachutiste. C'est quoi ? Ce sont des gens spécialistes dans le déminage. Et il a probablement été tué en voulant effectuer un déminage pour débloquer une position de la finule.
Général, les règles sont très strictes, hein, les règles d'engagement. On n'a pas le droit, nous, soldats français, d'intervenir contre l'un des belligérants, sauf en riposte, c'est bien ça?
Oui.
Donc on est en quelque sorte une force d'interposition?
Oui, tout à fait, et on intervient avec ses armes. Ne disons pas que les soldats sont désarmés, ils sont armés. Simplement, les règles sont qu'ils ouvrent le feu si... dans un premier temps, ils sont menacés ou attaqués.
On redécouvre ce que vous disiez, c'est-à-dire ce paradoxe libanais. Depuis 2006, le Hezbollah est censé être désarmé. On voit jour après jour que ce n'est évidemment pas du tout le cas. Vous parlez de l'armée libanaise. Quand on dit l'armée libanaise, on distingue donc le Hezbollah, qui est parfois aussi armé, voire même plus, oui, que l'armée régulière libanaise.
Bien sûr. Le Hezbollah s'intitule la résistance libanaise. Et c'est là qu'il y a eu un tournant, parce que maintenant les Libanais disent « mais cette résistance, elle défend pas le Liban, elle défend l'Iran, et elle est armée par l'Iran. Et donc il faut arrêter de soutenir ce mouvement chiite, donc essentiellement dans le sud, et qui est aux ordres de Téhéran, et non pas de Beyrouth. L'armée libanaise, elle, est aux ordres du gouvernement libanais. Mais comme on le sait, le gouvernement libanais est très faible, l'armée elle-même est très faible, la France la renforce, lui a envoyé des véhicules blindés il n'y a pas très longtemps, et il faut continuer.
39 véhicules blindés qui ont été envoyés effectivement il y a une dizaine de jours. Général, la mort d'un de nos soldats, c'est évidemment toujours un drame absolu, et on se souvient de ces mots le 18 novembre dernier du général Fabien Mandon, qui est notre chef d'état-major des armées. Devant les maires de France, il avait eu cette expression: la France doit accepter de perdre ses enfants. Ça avait créé une polémique inouïe, comme si c'était extrêmement choquant d'avoir dit ça. Quand on voit aujourd'hui, en effet, parfois elle perd ses enfants, mais sommes-nous prêts à cela? Est-ce qu'il n'avait pas raison, au fond, de dire « mais réveillons-nous, il faudra à un moment ou à un autre... »
Oui, il faut se réveiller. Le soldat s'engage non pas pour aller mourir, évidemment. Il s'engage pour s'entraîner, se préparer, remplir sa mission, mais la mort fait partie des éléments qu'il doit prendre en compte. Et ça, les soldats en sont bien tous convaincus. Lorsqu'ils s'engagent, on les prépare à mieux se défendre, à mieux se protéger, mais ils peuvent être tués. Le problème, ce sont les civils, pardonnez-moi, nous tous autour, qui regardons ça, et on dit, c'est pas possible, il y a un soldat qui a été tué. Ça fait partie, j'allais dire, des risques du métier, malheureusement, mais ceci ne limite absolument pas l'engagement. Je rappelle qu'il y a à peu près 20 000 jeunes Français, tous les ans, qui s'engagent, et qui savent qu'il y a quelque chose de plus important que leur vie, d'une certaine façon, mais on va les préparer à se défendre, à se protéger, pour défendre leur pays.
Merci beaucoup, général Dominique Trinquant, d'être venu sur RMC ce matin, ancien chef de la mission militaire française à l'ONU, et vous l'avez dit, servi au Liban. Il est 7h20. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Notre historien à nous sur RMC. Arthur, 15 000 habitants ont été évacués hier en région parisienne après la découverte d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, plus d'un milliard de bombes sont tombées en France pendant les deux guerres mondiales, et celles qui n'ont pas explosé sont encore plus dangereuses aujourd'hui.
Vous nous le direz dans un instant. Il y a aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Il est 7h20 sur RMC, on se retrouve dans 30 secondes.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 sur RMC et RMC Story, c'est l'heure de remonter le temps. Arthur, quand l'histoire nous montre effectivement qu'il y a encore aujourd'hui des traces de la Seconde Guerre mondiale, une vaste opération de déminage a eu lieu à Colombes en Île-de-France. 800 agents ont été mobilisés ce week-end pour neutraliser une bombe qui date de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, des milliers de riverains ont été évacués sur un périmètre de plusieurs centaines de mètres. L'opération déminage a commencé à l'aube et s'est poursuivie toute la journée. Les démineurs ont d'abord essayé d'extraire le détonateur, alors ce qui a échoué. Donc, ils ont finalement enfoui l'engin explosif sous terre pour le faire exploser.
Pourquoi on retrouve encore et si souvent des bombes des deux guerres mondiales?
Eh bien, parce qu'on en a tiré énormément. Hein. Rien que pour la Première Guerre mondiale, on a tiré 1 milliard d'obus en France, hein, sauf que le quart d'entre eux n'a jamais explosé. Pour la Seconde Guerre mondiale, c'est 15% des projectiles qui n'ont pas explosé. Donc maintenant, évidemment, il faut aller les récupérer. Depuis 1945, on a neutralisé 700 000 bombes, 13 millions de mimes et 35 millions d'engins explosifs. Alors vous me direz, c'est pas mal, mais en fait on est quand même très loin du but, puisque d'après les scientifiques, il va falloir 7 siècles pour éradiquer...
Pardon ?
7 siècles
ah ouais.
pour éradiquer toutes les bombes sur notre territoire.
Elles sont encore dangereuses aujourd'hui, c'est bon ?
Alors pour la plupart, elles sont même encore plus dangereuses, Apolline, hein, puisqu'en fait elles n'ont pas explosé, mais elles sont toujours chargées de poudre, hein, d'explosifs, et donc avec le temps, elles sont devenues hypersensibles, beaucoup plus sensibles qu'au moment où elles ont été utilisées. Donc si vous trouvez un obus chez vous, ne touchez à rien et appelez les services de déminage. Hein, c'est mon conseil ce matin.
On retrouve même des projectiles vraiment très très anciens.
Et oui, et même dans des circonstances totalement improbables. En 2023, à Volpény, en Seine-et-Marne, alors qu'une femme était en train de jardiner, elle a découvert un obus de 20 cm dans son jardin. Naturellement, elle a pris peur, elle a alerté les services de déminage. Et finalement, on s'est rendu compte que cet obus daté de la guerre de 1870, c'est-à-dire un conflit qui opposait la France et l'Allemagne il y a plus de 150 ans.
Il y a des bombes nucléaires qui n'ont jamais explosé ?
Et oui, c'est méconnu, mais c'est vrai, hein, les spécialistes de ça, ce sont les Américains. À ce jour, ils ont admis avoir perdu 3 bombes nucléaires.
Mais non.
3 quand même, pendant des entraînements. Et vous allez voir, c'est pas rassurant du tout. Je vous raconte l'histoire d'une de ces 3 bombes perdues. Nous sommes en 1965, à bord d'un porte-avions américain, au large de la mer des Philippines, donc à côté du Japon. Et sur ce porte-avions, il y avait un avion chargé avec une arme nucléaire. Sauf que pendant une manœuvre, l'avion a glissé sur le pont
mais
et
non.
est tombé dans l'eau. Il a coulé à pic avec sa bombe atomique, un scénario de bande dessinée.
Mais non, du coup on fait quoi ? On la laisse là, dans l'eau ?
Et ben là, on n'a rien pu faire. Hein. L'avion a coulé, on n'a jamais récupéré ni l'avion, ni la bombe, ni le pilote. Elle est toujours au même endroit, à l'endroit où on parle, c'est-à-dire à 5000 mètres de profondeur. Les États-Unis n'ont reconnu cet incident qu'en 1989, c'est-à-dire 24 ans après les faits. En nous disant qu'il n'y avait rien à craindre, eh bien, on l'espère.
On croise les doigts. Merci Arthur Chevalier. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Bonjour
Apolline. Salut Arnaud.
La bombe de RMC qui va exploser de rire.
Patrick Sébastien. Exactement, je suis prête, je suis prête. Arnaud, mon invité à 8h la nuit tout à l'heure, c'est l'ancien ministre de l'économie et ancien commissaire européen, Thierry Breton.
Oui, Thierry Breton, oui, ancien commissaire au marché intérieur, qui vient nous aider à examiner et à comprendre notre marché intérieur. Mmh. Est-ce que vous écoutez autour de la table suffisamment votre marché intérieur ? Moi, hier, j'ai fait le plein de la Twingo, ça m'a coûté 90 balles. J'ai senti que je l'avais dans le marché intérieur. J'étais quand même vraiment pas content. Thierry Breton, qui a une particularité en ce moment, c'est le seul homme de droite de plus de 50 ans à ne pas avoir déclaré sa candidature à la présidentielle.
Oh bah attendez,
bah alors Thierry, faut pas être timide comme ça, mon garçon. Si même Barnier et Lisnard l'ont fait, tu peux le faire, hein, tu seras pas plus ridicule. Oui, toi aussi, tu peux faire campagne en promettant l'austérité. Toi aussi, tu peux organiser des meetings à la salle communale Marielle Guatchel de Bourg-Saint-Maurice. Toi aussi, tu peux viser les moins de 5% comme Valérie Pécresse. Il faut croire en ses rêves. Regarde, Apolline est devenue actrice. Elle l'aura, cette arme. C'est important de rêver. Thierry Breton, qui est un redoutable négociateur, faut l'envoyer à Islamabad pour les pourparlers de paix, là. Trump nous écoute absolument pas, en plus. En même temps, il écoute qui, lui ? Le lapin de Pâques, Jésus, Jeffrey Epstein et Fox News. Je pense que la clé, c'est de lui envoyer un émissaire européen déguisé en lapin raciste, intégriste, pédophile.
Ah bah, c'est sûr.
Monsieur Donald, je suis Adolphe le lapin. Il faut que tu arrêtes ton blocus. Sinon, comment les conducteurs de camionnettes des Ardennes vont faire le plein pour aller à l'église ? Oh, tu as raison, Adolphe le lapin. Non, mais au point où on en est, je veux dire, c'est pas plus bête qu'autre chose, quoi.
Ça se tente.
Moi, je. Vous savez, j'en suis à me. Enfin, moi, je sais pas ce qu'il va faire cette semaine. Je me dis, on devrait se créer une grille de bingo et faire le bilan vendredi. Vous savez, à peu, on ferait des cases, là.
Ouais.
Il y aurait lancer une bombe nucléaire, insulter Macron, faire une déclaration à poil.
Et ensuite, on fait des...
boire de la cétone et on fait des croix au fil de la semaine. Poster une photo de lui déguisé en Mahomet, se couper les ongles de pied pendant un meeting avec Zelensky, uriner sur un général 5 étoiles,
faire un discours
avec un poireau dans la main et un seau sur la tête, débarquer avec un blackface en disant « Je suis un meilleur président noir qu'Obama. » Il peut tout nous faire. Il y a tellement plus rien d'étonnant qui revient de là-bas. Non, l'autre jour au Pentagone, le ministre de la guerre, Pete Hegseth, il a voulu faire une prière.
Ouais.
Vous avez vu ce qu'il a fait ? Il a cité un monologue de Pulp Fiction en pensant que c'était un passage de la Bible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est bon, quoi. C'est comme si Macron priait en disant « J'étais assis sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage. »
Je l'ai, moi.
Mais Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas.
J'étais assis Cyrus.
Que l'on retrouve tous les jours pour notre plus grand bonheur à 7h20 et 8h20. Il est 7h27 sur RMC. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal de 7h30. Et puis notez, tiens, qu'à 7h50, ce sera la voix de droite. Louis Sarkozy, comme tous les lundis. Et il s'attaque ce matin au RN. Jordan Bardella va déjeuner aujourd'hui avec les patrons du MEDEF. Le Rassemblement National a un programme économique socialiste. Voilà le parti pris de notre voix de droite. En ce jour de lundi, il est 7h27. Restez bien sur RMC. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal présenté par Solène Garbry. Bonjour Solène.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les ados passent jusqu'à 5 heures par jour devant leurs écrans. Une addiction qui les rend parfois agressifs, vous allez l'entendre. RMC s'est rendu dans le village où a grandi Florian Montorio, le sergent-chef tué ce week-end au Liban. Et puis en tennis, Arthur Fils revient en force et remporte son premier titre de la saison à Barcelone.
Nos ados passent entre 3h30 et 5h par jour devant les écrans.
Oui, et ce matin, on a décidé de vous parler de l'agressivité liée à cette addiction. Louis Salé, vous avez enquêté pour RMC sur ces adolescents qui n'arrivent plus à se détacher de leurs écrans.
Oui, c'est ce que remarque Marie Tamboura, principale d'un collège à Montreuil et membre du syndicat SNPDEN, lorsqu'elle confisque les smartphones.
J'ai plusieurs exemples très précis avec parfois des jeunes filles ou des jeunes garçons qui ont pleuré avec beaucoup de colère, de l'agressivité, des élèves qui refusent de lâcher l'objet et en disant « je ne peux pas le faire, je n'y arrive pas, c'est trop dur ».
Elle renonce parfois à prendre le téléphone et convoque la famille pour les orienter vers un centre médico-psychologique. Certains sont spécialisés dans l'usage excessif des écrans, comme celui de Nicolas, près d'Orléans. Ce lycéen a développé une addiction à la plateforme de jeu Roblox, jusqu'à inquiéter sa mère Séverine.
Il était arrivé à un point où il se réjouissait seulement quand il allait avoir les vacances avec plus de temps pour pouvoir jouer. Et on avait vraiment, à partir d'un certain moment, là, vraiment la sensation qu'il n'y avait plus que ça qui lui faisait plaisir en fait dans la vie. Quand nous, on finit par exiger qu'il s'arrête, il pouvait s'énerver, crier, claquer des portes. Et finalement, on le laissait jouer plus longtemps.
Nicolas s'en est sorti grâce à une interdiction totale de jouer sur l'ordinateur mise en place par la psychologue du centre qui préconise, comme pour un drogué, le sevrage complet du produit addictif.
Louis Salé pour RMC. Une aide bienvenue mais compliquée à obtenir. L'aide exceptionnelle du gouvernement sur le carburant est entrée en vigueur hier. Entre 70 et 500 euros pour ce mois d'avril. À l'attention des professionnels des transports routiers, donc les autocars, les ambulances et les camions de marchandises. Une bonne idée selon les professionnels, mais le problème c'est de l'obtenir, Antonin Audion.
Une vraie respiration pour l'entreprise de Mathieu Bienvenu à côté d'Aix-en-Provence.
On est tout petit, donc 500 euros, c'est bien.
500 euros, c'est le montant qu'espère obtenir le chef d'entreprise pour chacun de ses 6 poids lourds au mois d'avril, une fois son dossier traité et sa demande acceptée.
Cette aide, elle va être intéressante, mais l'idéal, ce serait de faire soit un gasoil professionnel moins cher ou enlever des taxes. Et en fait, c'est là maintenant qu'on a besoin d'argent.
Le montant des aides dépend de l'entreprise, ambulance, car ou poids lourd, de son chiffre d'affaires, du nombre de camions ou encore de leur poids.
On voulait quelque chose de rapide et simple. Et là, c'est compliqué et puis illisible.
Stéphane Clément est à la tête d'une entreprise de 50 semi-remorques. Il craint que l'aide ne soit pas adaptée à la situation.
Là, ils viennent juste de nous sortir le décret. C'est une vraie usine à gaz. Hein. On va discriminer certaines entreprises. On va faire de la concurrence déloyale entre ceux qui ont le droit et ceux qui n'ont pas le droit. On y pas clair du tout.
Les entreprises doivent s'inscrire avant le 15 juin pour profiter du dispositif.
Et les prix du baril de pétrole sont à nouveau en hausse ce matin. Après de nouvelles tensions cette nuit dans le détroit d'Ormuz, la marine américaine a ouvert le feu sur un cargo iranien qui tentait de forcer le blocus américain. L'Iran qui annonce ce matin refuser de participer aux négociations avec les États-Unis prévues au Pakistan cette semaine. À Paris, Emmanuel Macron convoque lui un conseil de défense à 8h30 sur la situation au Moyen-Orient. Le corps du sergent-chef Florian Montorio a été rapatrié en France hier. Ce soldat des casques bleus est mort samedi au Liban dans une embuscade. Père de 2 enfants, il était rattaché au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, mais a grandi dans le village de Valence d'Agen. C'est là que s'est rendue Lou Garnier pour RMC. Elle a pu rencontrer des proches du sergent-chef.
Autour de la table, les regards se perdent quand on évoque le soldat disparu.
C'était un gars simple, un copain, un homme de cœur.
Des gens qui sont décédés, on leur trouve toujours des bons côtés. Et là, moi, je peux vous garantir que c'est sincère.
C'est pas des paroles à lire.
Joël, Francis et Christian sont d'anciens militaires et des figures du rugby club du Brulois 82 dans lequel a joué Florian. Joël l'a connu à l'armée avant de le retrouver sur le terrain.
Le rugby, c'était aussi sa vie. Hein. On est fiers du gamin qu'on a connu. Il était joyeux, puis c'est un leader. Il tirait les autres vers le haut.
Il pleure aujourd'hui ce gamin, comme il l'appelle. Devenu sergent-chef, Florian Montorio laisse derrière lui ses deux filles. Il était déployé au Liban depuis le 20 janvier dernier.
Il y a des missions comme ça, ils sont préparés pour. Mais c'est toujours difficile quand on connaît la personne de l'accepter. C'est mission soldat de la paix, mais on risque autant que... Voilà, la preuve. Il est mort en tant que chef. C'est un vrai soldat, c'est un guerrier. Il est mort avec ce qu'il aimait faire.
Pour honorer sa mémoire, ils espèrent qu'un hommage sera organisé aux Invalides à Paris.
Un reportage de Lou Garnier pour RMC. Bruno Retailleau est désigné candidat Les Républicains à la présidentielle. Les adhérents du parti ont voté hier entre deux formes de primaire plus ou moins ouvertes. Et 74% des votants ont désigné leur président de parti comme candidat pour 2027. Elon Musk, convoqué par la justice française à Paris aujourd'hui, le milliardaire américain doit donner sa version sur les nombreux abus de son réseau social X et surtout de son IA, Grok, soupçonné d'avoir créé des photomontages sexuels non consentis et relayer des propos négationnistes. On ne sait pas si Elon Musk se rendra à cette audition libre. En tennis, Arthur Fils revient en force et a remporté son premier titre de la saison hier à Barcelone, l'ATP 500. Eric Salio, le français, a battu le numéro 15 mondial, Andrei Rublev, à un mois du début de Roland-Garros.
Oui, et comme le veut la tradition, Arthur Fils a piqué une tête dans la piscine du club centenaire de Barcelone. Un instant jubilatoire où les moments douloureux de sa longue indisponibilité ont dû ressurgir. Au prix d'efforts et de sacrifices, il a su se reconstruire un dos tout neuf en gagnant ce tournoi réputé. Il envoie un message puissant. Il faudra compter avec lui pour cette saison sur terre battue, avec en point de mire évidemment Roland Garros, ce chelem qu'il avait dû abandonner l'an passé en cours de route, le pire souvenir de sa carrière. Sur le plan comptable, Arthur Fils pointe ce matin au 25e rang mondial, mais sur les seuls résultats de cette année 2026, il est numéro 6, juste devant Novak Djokovic. Autant dire que s'il maintient le rythme, il sera le 13e français à atteindre le top 10. Reste à savoir quand.
Puis en Ligue 1, le PSG, premier du classement, a perdu hier face à l'OL. Les Lyonnais se sont imposés 2-0 au Parc des Princes en clôture de la 30e journée. Le quintet, pour finir, oui, il se déroule sur l'hippodrome de Fontainebleau à 13h55. Voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori est le numéro 5, Dalakir. Leur outsider est le numéro 14, Mia Julia.
C'était le journal de Solène Gardré. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les aides de l'État entrent en vigueur aujourd'hui et il y a de nombreuses réactions, notamment sur le WhatsApp de l'émission, Mathieu.
Oui, évidemment, au 06 12 424 424, la question du prix des carburants toujours, des particuliers et des professionnels ce matin, des particuliers parce que vous le mesurez, vous le constatez et souvent le week-end vous avez un peu plus fait le plein, une baisse de 5 centimes à peine, on se fout de nous dit Greg. Il y a des gens qu'on aide, ils pensent aux entreprises justement, on va en parler, mais ce sont les taxes qu'il faut baisser et pour tout le monde, nous dit Greg ce matin. J'attends d'être sur le premier trait rouge de la jauge à l'écran pour pouvoir refaire le plein et encore, je mets juste 20 euros et je roule très peu. On a Demis qui lui est professionnel du transport, dans le transport sanitaire, 70 euros par ambulance, ça c'est l'aide de l'État débloquée à partir d'aujourd'hui pour les ambulances hors taxi pour le transport sanitaire. C'est ce que je mets pour une journée, c'est une énorme blague, 70 euros. Pour info, le surcoût pour le mois de mars avec 20 véhicules, c'est 8000 euros, nous dit Demis ce matin sur le WhatsApp RMC où vous continuez à apporter votre témoignage au 06 12 424 424.
Et justement, face à l'augmentation des prix du carburant, de plus en plus de Français veulent passer à l'électrique. Au fond, est-ce que la guerre en Iran n'est pas un accélérateur donc, de ces choix de l'électrique? Le nombre de ventes de voitures augmente, les demandes d'installation de bornes chez soi augmentent aussi. Voilà une enquête RMC ce matin. Bonjour Clément Molison.
Bonjour.
Merci d'avoir choisi RMC ce matin pour présenter les acteurs de l'électrique en France. Est-ce qu'on est face à un tournant? Je vous pose la question dans un instant, 7h38.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h41, très belle journée à tous sur RMC. La voiture électrique est en train de s'imposer en France. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il semble s'accélérer avec la crise au Moyen-Orient. Sommes-nous face à un tournant, voire même un déclic? Bonjour Clément Molison.
Bonjour.
Vous êtes le délégué général d'Aver France, qui regroupe les acteurs de l'électrique en France. RMC a mené l'enquête et a découvert que les demandes d'installation de bornes électriques a bondi, multiplié par deux chez certains acteurs du domaine, et notamment dans l'immobilier. C'est un signe, ça?
Oui, tout complètement. Sur la copropriété, sur le résidentiel collectif notamment, depuis le début du conflit, depuis début mars, on voit que les demandes, elles augmentent. Pour toutes les copros qui ont déjà fait la démarche de prééquiper leur parking, les demandes d'installation individuelle sont en train de grandir.
Est-ce que c'est facile d'installer des bornes chez soi quand on est dans un immeuble?
Ça l'est de plus en plus, et aujourd'hui toutes les solutions existent. Il y a plusieurs solutions techniques, il y a aussi des accompagnements financiers qui permettent un reste à charge nul pour la copropriété. C'est-à-dire que c'est uniquement les utilisateurs qui payent. Ça évite de faire payer le voisin, ça débloque pas mal de situations.
On est passé d'une prise de conscience, on a l'impression, écologiste. C'est-à-dire que les premiers à avoir fait le pas de l'électrique, c'était parfois pour des raisons plutôt écologiques. Aujourd'hui, il y a à la fois la question économique et puis la peur d'une dépendance trop grande vis-à-vis des hydrocarbures, voire même la peur de la pénurie. C'est aussi ça qui crée le déclic?
Je vous rejoins tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est cette prise de conscience de nos dépendances aux hydrocarbures qui est peut-être la leçon à retenir. Sébastien Lecornu, dans son discours sur le plan d'électrification, l'a bien dit. Importer du gaz et du pétrole, c'est importer les crises des autres. Et donc, il faut faire en sorte d'électrifier notre pays pour le rendre le plus indépendant possible. Et on a un certain nombre de Français qui ont déjà bien identifié cette solution-là.
Les ventes de véhicules électriques neufs ont égalé leur record historique. 28% des véhicules qui ont été vendus en mars étaient des véhicules électriques.
Tout à fait. Si on rajoute les hybrides rechargeables, c'est un véhicule sur trois au mois de mars. Sur les seuls véhicules électriques, c'est 55 000 véhicules. C'est 8 000 de plus qu'en décembre dernier, qui était déjà le précédent record.
Et puis alors, du côté de l'occasion, là, ça bondit, plus 47% sur un an, parce qu'aussi, avant, il y avait moins de véhicules d'occasion électriques sur le marché.
Il y avait moins de véhicules électriques d'occasion, et puis on sait qu'aujourd'hui, les ménages les plus exposés, ce sont des personnes qui achètent des voitures d'occasion. 6 Français sur 7 se fournissent sur le marché de l'occasion, donc c'est là où on va avoir et la vraie démocratisation et surtout les gens qui vont être les plus menacés par la crise actuelle.
Je voudrais justement qu'on puisse accueillir le témoignage de Thierry. Thierry qui nous appelle de La Rochefoucauld en Charente. Bonjour Thierry.
Bonjour Apolline, bonjour.
Vous avez franchi le pas? Vous aviez hésité?
Alors oui, alors moi en plus j'étais contre l'électrique. J'habite en ruralité, donc j'avais tout mis en négatif. Et on a franchi le pas en septembre. On a acheté une petite Dacia Spring d'occasion.
Oui.
Et ben, on est passé de 260 euros de gasoil par mois à 60 euros d'électricité.
Ah oui, donc effectivement... Pour nos
usages quotidiens, on fait 90 km par jour. Et du coup, je vous ai coupé, Apolline, désolé.
Allez-y.
On franchit la deuxième marche parce qu'on va vendre notre voiture familiale pour aller acheter une voiture familiale électrique.
Ah donc vous aviez gardé quand même. Et on a remarqué, hein, souvent ça se fait comme ça. C'est-à-dire au début, on n'ose pas forcément y aller à 100%. Et là, vous n'avez plus d'hésitation, y compris pour la familiale, c'est-à-dire y compris pour des trajets plus grands.
Complètement, parce qu'en plus, il n'y a pas besoin d'installation spécifique à la maison. J'ai pas de borne spécifique, j'ai une prise classique sur mon compteur, donc je mettrai juste plus longtemps. Mais l'économie est réelle, et puis l'usage, et puis la conduite, et puis tout, quoi. Je veux dire, voilà, moi, je suis convaincu. Donc j'étais un anti qui est convaincu désormais.
Et pourquoi vous étiez anti, Thierry?
Parce que j'écoute tout ce qu'on dit, parce que quand vous voulez piquer un chien, vous dites qu'il a la rage. J'habite en ruralité, et la voiture, on peut même pas faire 10 km, et comment je vais faire pour recharger? Puis en fait, on se met plein d'obstacles, et puis les obstacles, on les enlève les uns après les autres, on se met devant un ordinateur, on calcule tout. Et puis voilà, et puis là, pour vous dire, on est passé de 4 années pour amortir l'achat à 2,6 ans avec l'augmentation du gasoil. On a quasiment divisé par deux la
pompe. Oui, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand vous regardez les prix à la pompe, vous vous dites que vous avez bien fait, quoi.
Ah, mais je ne regarde pas.
Oui, vous ne regardez même plus. C'est vrai, vous ne regardez même plus.
Parce que mon prix électrique, il n'a pas bougé, moi, il ne bouge pas, moi.
Elle vous a coûté combien, la Dacia Spring d'occasion?
7 900 euros.
Thierry, restez avec nous. Ça, c'est vraiment typiquement le nouvel acheteur français de l'électrique. Thierry.
Complètement. C'est j'achète pour mon deuxième véhicule une petite électrique et puis j'en suis convaincu et je passe aussi le véhicule principal en électrique. Ce qu'il dit, c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Les déçus sont très peu nombreux. Le taux de satisfaction de l'électrique, c'est 93%. On voit un taux d'adoption qui est extrêmement fort. Et sur le marché de l'occasion, on on travaille beaucoup avec notre partenaire La Centrale, qui a un marketplace de l'occasion. C'est plus 180, je crois, % de recherche sur le véhicule électrique sur le mois de mars. Et donc voilà, on voit que ça se développe énormément.
Thierry, vous êtes resté avec nous. On va voir si vous arrivez à convaincre Raphaël, qui lui nous appelle de la Loire. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Raphaël, vous êtes cuisinier. Je crois que vous travaillez dans un EHPAD et que vous faites 50 km chaque jour. Quoi ? Ça veut dire 25 allers, 25 retours ?
Ouais, tout à fait, c'est exactement ça.
Et alors là, vous en êtes à combien d'essence ?
Bah écoutez, sur un plein qui me coûtait environ 60 à 65 euros, on est passé largement à 80-85 euros.
Ah oui. Donc par jour, vous avez calculé combien ça vous faisait en plus ?
J'ai pas calculé exactement, mais c'est vrai que il faut ça surtout regarder d'aller au boulot.
Est-ce que vous pourriez passer à l'électrique, Raphaël ? Ben, qu'est-ce qui vous retient de passer à l'électrique ?
Le tarif. Tout simplement, les prix. Moi, je vois depuis le début d'année, donc je travaille en EHPAD, j'avais demandé de pouvoir avoir une augmentation. On m'a augmenté de 8 euros. Vous avez vu les prix de l'essence, combien ils ont augmenté ?
Raphaël, oui. la meilleure personne peut-être pour essayer de vous convaincre, c'est Thierry. Thierry, vous pouvez vous adresser directement à Raphaël. Votre expérience, qu'est-ce que vous lui dites ?
Bonjour Raphaël, bah, loin de moi de vouloir le convaincre, mais je suis, si m'a entendu, j'étais exactement comme lui. Et franchement, Raphaël, 7900 euros, on n'a rien sur le marché. Donc moi, j'ai une petite électrique et tous les jours, on fait 90 km. Et ça me coûte moins de 2,50 € par jour.
Ouais, Raphaël. Et nous à la maison, on avait deux véhicules, vu qu'on travaille tous les deux. Je suis déjà passé en leasing avec une, pas parfois,
ouais, mais
pas
plus,
parce que le problème, c'est que le garage, nous, on est obligé d'avoir des pneus neige en temps d'hiver, parce que on est montagne. Ça nous coûte déjà très cher au niveau des pneus. Les garages, ne serait-ce que pour faire une vidange à l'heure actuelle, ça fait partie des choses. Je ne comprends pas que ce soit des professionnels, qu'il n'y ait pas des tarifs qui soient bloqués. Moi, j'aimerais bien, vraiment, quand je vois que je peux même pas partir en vacances, j'ai pas fait de grandes études, mais je travaille tous les jours, je peux pas partir en vacances comme je veux, et c'est vrai que le véhicule, j'aimerais le changer, réellement, j'aimerais le changer, mais quand vous avez des salaires qui sont de 1800 euros, alors vous travaillez les week-ends, malheureusement, j'ai une petite C3 qui a déjà plus de 12 ans, et que je suis obligé de garder, alors que j'aimerais vraiment pouvoir passer à l'électrique, parce que je rentre parfaitement dans le cas de celui qui pourrait avoir une petite électrique. Quoi.
Vous seriez, en fait, avec la Dacia de Thierry, en effet, assez vite, vous feriez des économies, mais enfin, ça reste une somme à sortir. Thierry et Raphaël, merci à tous les deux d'être intervenus, et je trouve vraiment intéressant quand on peut vous mettre en relation, en quelque sorte, et qu'on puisse comparer vos deux situations. Clément Molison, les bornes de recharge, aujourd'hui, parce qu'on a parlé des bornes de recharge chez soi, il y a désormais la question aussi des bornes de recharge sur le chemin, sur le trajet, quand on voit que Thierry, il veut passer à l'électrique, y compris pour la familiale, c'est-à-dire pour la voiture qui leur permet de partir en vacances. Est-ce que vraiment, désormais, quand on part, on peut être sûr de faire un long trajet ?
Bien sûr, aujourd'hui on est à plus de 192 000 points de recharge sur tout le territoire, donc on approche du palier des 200 000. L'ensemble de nos autoroutes sont équipées depuis l'été 2023 et on a des acteurs du réseau autoroutier qui renforcent leur réseau avant les périodes de estivales notamment.
L'aide de l'État, les aides de l'État. Vous mentionniez le discours de Sébastien Lecornu sur l'électrification de la France. Quand on entend typiquement le discours de Thierry, de Raphaël, Raphaël, il dit mais moi je veux bien passer à l'électrique, mais il me faut une aide à l'achat. Est-ce que ça, vous estimez que c'est à la hauteur ?
Bien sûr, je pense que Raphaël, il rentrera typiquement dans le cadre des bénéficiaires potentiels du leasing social, qui a été annoncé pour juin, qui a priori devrait être là plutôt au mois de juillet. Ce sera sa troisième édition, ça fait déjà 100 000 bénéficiaires depuis deux ans. Il y a d'autres aides qui existent, notamment le bonus, où on peut aller jusqu'à 7 000 euros, c'est quand même des sommes qui sont importantes. Et ensuite, il faut surtout préparer l'avenir. Là, on a des mesures de court terme qui sont importantes, mais il faut faire en sorte d'avoir de plus en plus de voitures. On a beaucoup parlé de 2035, nous, et donc de la fin de vente des véhicules thermiques. Nous, on espère que la France, elle changera sa position et qu'elle va continuer à soutenir le maintien de cette
disposition. Parce qu'aujourd'hui, cette date, elle est effectivement plutôt suspendue.
Elle est discutée. Aujourd'hui, c'est 3 à 6 millions de véhicules électriques en moins d'ici 2035 si on adopte des mesures de flexibilité. Bah, tout ça, c'est des voitures en moins sur le marché de l'occasion pour Raphaël.
Merci beaucoup Clément Molison, délégué général d'Aver France. Vous représentez donc les acteurs de l'électrique en France. Et un merci tout particulier à Thierry et à Raphaël pour leur témoignage. Il est 7h50. compte. Louis Sarkozy est rentré dans ce studio. Bonjour Louis.
Bonjour.
Vous êtes la voix de droite d'RMC et c'est lundi. Vous allez nous le dire dans un instant. Jordan Bardella et le RN vont tenter de séduire les patrons. Déjeuner avec le MEDEF, oui, organisé aujourd'hui. Pour vous, c'est de la poudre aux yeux, c'est-à-dire?
Oui, le Rassemblement National est un parti socialiste qui a la particularité d'être régalien. Travailler moins, taxer plus, c'est un beau programme qui nous mène directement dans le mur.
Vous nous le dites dans un instant, 7h51.
RMC, Apolline Matin.
7h52 dans un instant, la voix de droite, mais d'abord le bonus, Mathieu, avec du nouveau côté 007.
James Bond est de retour en jeu vidéo, en attendant de relancer la franchise au cinéma sur les consoles qu'on va le retrouver. Mais vous allez peut-être découvrir au mois de mai, qui dit nouveau 007 dit nouvelle bande originale. Et c'est Lana Del Rey qui est au micro, l'américaine qui chantait Video Games il y a quelques années. De bout en bout, ça ressemble à du Bond. Univers mélancolique, orchestration classique. Même pour du gaming, Bond reste Bond. Lana Del Rey a même écrit avec un compositeur classique de la franchise. Et l'idée, c'est précisément d'attirer les fans de Bond vers le jeu vidéo First Light. Ça sort le 27 mai. Vous achetez, ça faisait 10 ans qu'aucun jeu inspiré du célèbre espion de Sa Majesté n'avait vu le jour. Le 27 mai sur les PC, PlayStation et Xbox.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est lundi et tous les lundis, c'est la voix de droite sur RMC. Louis Sarkozy, bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Opération séduction du RN auprès des patrons. Marine Le Pen avait déjà déjeuné avec certains d'entre eux. Et aujourd'hui, c'est Jordan Bardella qui déjeune avec les dirigeants du MEDEF. On l'apprend ce matin, le RN a écrit aux dirigeants d'entreprise pour identifier les freins de l'économie. Sauf que pour vous, Louis, il faut rappeler que le Rassemblement National a un programme économique, quoi, socialiste, c'est ça que vous m'avez fait dire?
Parfaitement socialiste. Si ce n'est presque communiste. Maurice Druon avait l'habitude de dire qu'en France, il existe deux partis de gauche dont l'un s'appelle par convention la droite. Le programme économique du Rassemblement National a un nom, le socialisme. Il a une couleur, le rouge, et il aura un résultat, l'enlisement, la décroissance, la catastrophe. En somme, tout ce que la France s'obstine à faire depuis des décennies à tort.
Vous n'exagérez pas un petit peu quand même?
Non, c'est pas du tout mon style.
Non, pas votre genre, Louis.
Qu'appelez-vous le retour de l'âge de départ à la retraite à 62 ans, Apolline? Et même à 60 pour les carrières longues, alors même que notre démographie s'effondre et que nous sommes déjà parmi les peuples qui travaillent le moins. Jordan Bardella s'inscrit ici dans la parfaite lignée de la CGT et du Parti Socialiste. Ce parti ment aux Français en leur faisant croire que l'on peut travailler moins. C'est bien évidemment faux et c'est un mensonge qui peut nous coûter très cher.
Sur la fiscalité, que propose le RN?
Taxation des super profits des énergéticiens, taxe sur le rachat d'actions, taxe sur les dividendes exceptionnels, remplacement de l'IFI par un impôt sur la fortune financière, autrement dit le retour déguisé de l'ISF sur les actifs financiers. C'est parfaitement les thèses de l'économiste de gauche Thomas Piketty. Il cible le capital, surtaxe la réussite et prône une fiscalité encore plus écrasante, alors même que la France réclame exactement l'inverse.
Vous voyez des incohérences avec leur discours très à droite sur d'autres points, c'est-à-dire quoi? Ce serait économiquement de gauche et sur le reste très à droite?
Mais exactement, le Rassemblement National, c'est une contradiction permanente, c'est un oxymore. Jordan Bardella déclare en novembre 2024 qu'il faut revenir sur les 35 heures. Pourtant, les trois sénateurs RN ont voté contre la proposition de loi de fin 2024 visant à créer 7 heures de travail supplémentaires. Bardella affirme en février 2024 être parfaitement d'accord avec la réforme de Macron conditionnant le RSA à 15 heures d'activité. Pourtant, ses députés votent contre à l'Assemblée. C'est Patrick Martin, le président du MEDEF lui-même, qui le dit en avouant être incapable de dire quelle est la vraie doctrine économique du Rassemblement National.
Bon, alors,
personne
ne
sait.
Encore d'ailleurs une nouveauté ce matin, puisque on apprend que le RN a écrit au chef d'entreprise et qu'il promet de lever les normes qui freinent l'économie française.
Oui, bien sûr, bien sûr. Des mots. On attend les actes, on attend les votes. Le mal français a un nom, Apolline. La fiscalité. Les normes écrasantes, l'obésité de l'État. Le RN lui propose davantage d'impôts. C'est un parti étatiste, un parti redistributif qui ne croit ni à l'allègement de l'État, ni à la liberté économique. Et quand on demande à Marine Le Pen s'il y a trop de fonctionnaires en France, elle répond « Ah non, ça, laissez-moi tranquille, c'est des trucs de droite ». En réalité, ce parti ne répond à rien, sinon aux attentes d'un électorat anciennement de gauche qu'ils veulent à tout prix conserver pour accéder enfin au pouvoir.
Donc vous, le libéral Louis Sarkozy, vous vous dites que le RN au pouvoir en 2027 serait une catastrophe,
hein? Alors déjà, j'ai du mal à croire qu'ils survivent à une élection présidentielle avec autant d'incohérence dans leur programme. Ce parti est unidimensionnel. L'immigration, un peu de régalien, et c'est tout. Mirabeau disait de la Prusse, la Prusse n'est pas un État qui a une armée, c'est une armée qui a un État. La formule s'applique trait pour trait au Rassemblement National. Tous les partis ont une politique migratoire. Le RN, c'est une politique migratoire qui s'est trouvée un parti. Le reste du programme, c'est du remplissage, et un remplissage, je pense, qui ne passera pas le second tour de l'élection présidentielle.
Vous comparez le RN à la Prusse.
Oui, à sa grande défaveur, d'ailleurs.
Louis Sarkozy, on l'a bien compris. Louis Sarkozy, merci en tout cas ce matin, la voix de droite. Demain, comme tous les mardis, ce sera la voix de gauche à votre place. Cécile Duflo, il est 7h57. Dans un instant, le journal de 8h. À la une, c'est distributeur de carburant. Encore convoqué à Bercy, le gouvernement qui continue à faire pression sur leur marge. Juste après le journal, ce sera l'économie avec vous, Emmanuel de Chypre. Emmanuel, est-ce que c'est le retour de l'inflation ?
Eh bien, je vais vous expliquer semaine après semaine le calendrier des hausses de prix qui nous attendent.
Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h57. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.